Et avec une nouvelle édition de l'économie en question et dans l'actualité, l'ouverture ce matin, mouvementée pour le président de la République du 53e salon de l'agriculture sur fond de colère et d'inquiétude. De nombreux éleveurs et agriculteurs français vivent en effet une situation difficile. Leur activité est souvent mal, voire très mal rémunérée. Le nombre des exploitations continue de réduire quand leur taille augmente et sans pour autant créer davantage d'emplois. Tout cela dans des conditions environnementales peu satisfaisantes. Excès dans l'utilisation d'intrants, dégradation des sols et des eaux, atteinte grave à la pollinisation, menace pour la santé aussi. Un sombre tableau qui doit pourtant être nuancé, et il l'est d'ailleurs, par de réels succès et qui ne doit pas faire oublier, c'est un paradoxe peut-être, que la France reste un grand pays exportateur. Mais là aussi, des questions. En Europe, son importance est indéniable, même si, comme on va le voir, d'autres pays l'ont dépassé. Mais ailleurs, la France était au deuxième rang jusqu'à la fin des années 90 des exportations mondiales. Quatrième rang aujourd'hui, et pour combien de temps encore? Que faire pour conserver ce poste, le faut-il d'ailleurs? Et au fait, faut-il exporter? Cette dernière question un peu provocatrice, nous allons la poser à nos invités à l'heure où se profile le traité de libre-échange transatlantique, actuellement, on le sait, en négociation avec les États-Unis, et dont le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, vient d'assurer, je cite, qu'il ne serait adopté que s'il était favorable à l'agriculture européenne. C'est dire à quel point celle-ci est concernée. C'est donc notre sujet ce matin, la France agricole dans la compétition mondiale. Et je suis en compagnie de trois invités, Marie-Hélène Schwab, que je salue, ingénieure agronome. C'est AgroParisTech, elle travaille à l'IGRI, Institut Développement Durable. Et vous allez terminer avec moi,
et des relations internationales,
au programme Alimentation et Agriculture. Et vous êtes spécialiste de la modernisation agricole, notamment en Chine. On va parler, bien sûr, des pays émergents. Et surtout, vous coordonnez, c'est notre sujet aussi aujourd'hui, d'un programme de recherche sur les transitions agricoles et alimentaires. On va en dire un mot. Sébastien Jean, que je remercie également d'être avec nous en direct ce matin. Centre d'études prospectives et de relations internationales également, bonjour, dont il est le directeur, mais également directeur de recherche à l'INRA, Institut National de la recherche agronomique, et qui est à l'origine d'une note au Conseil d'analyse économique toute récente sur l'agriculture française, dont on va parler plus longuement. Et enfin, Benoît Daviron, économiste aussi, que je salue, chercheur au CIRAD, recherche agronomique pour le développement. Il est en duplex à Montpellier, du moins j'espère. Bonjour. Qu'il le confirme. Oui, il est bien là.
Oui, je le confirme.
Bienvenue à tous les trois, bienvenue à tous. C'est l'économie en question et nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Je commence en effet par cette note, Sébastien Jean, que vous avez rédigée avec Lionel Fontanier et Jean-Christophe Bureau. C'était en décembre dernier, qualifié de assez peu optimiste. Et on peut peut-être le confirmer en citant quelques exemples. Un constat d'abord, bien sûr, des difficultés internes, de la dégradation de l'environnement, j'en ai dit un mot, et d'une performance commerciale, c'est celle-là dont nous allons surtout nous occuper ce matin, qui semble-t-il s'érode. Est-ce que vous avez souhaité alerter avec cette note? Vous faites évidemment un grand nombre de propositions sur lesquelles on va revenir et qui posent cette question de la présence mondiale de l'agriculture française aujourd'hui.
On a souhaité, en tout cas, poser des questions de fond sur les motivations de cette politique agricole française, qui, il faut le rappeler, est une politique ambitieuse, une politique qui se donne des moyens importants aussi, environ 30 000 euros par an par exploitation professionnelle. C'est poursuivre une série d'objectifs de nature sociale, environnementale ou économique. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est vraiment faire une analyse structurelle de ce qu'on obtient avec cette politique et regarder point par point si les résultats sont à la hauteur des moyens qu'on se donne. Et le constat qu'on fait, au fond, il est un peu amer, c'est de se dire, c'est de voir que on n'a pas réussi complètement à éradiquer les poches de pauvreté ou de faibles revenus dans l'agriculture française. D'ailleurs, la crise récente présente en est une illustration. En termes économiques ou commerciaux, vous l'avez dit, on va en parler, on a des performances qui sont pas déshonorantes, mais qui sont pas non plus celles qu'on aurait pu espérer. Et puis, on tire un peu aussi le signal d'alarme sur l'environnement, en soulignant le fait que il y a des problèmes environnementaux liés aux pratiques agricoles, qui au fond posent la question, est-ce qu'on veut simplement soutenir l'agriculture française telle qu'elle existe maintenant, ou est-ce qu'on veut vraiment l'orienter par ces politiques agricoles, et comment faire pour s'en donner les moyens ?
Et dans ces propositions, vous reprenez en fait tous ces points négatifs pour faire des suggestions, pour les améliorer. Je veux dire par là que vous vous appuyez beaucoup sur la qualité, vous appuyez beaucoup sur les spécificités françaises. Oui, c'est un point auquel vous insistez, y compris pour l'exportation.
Absolument, pour souligner qu'il n'y a pas de fatalité sur aucun de ces points. Et simplement, il y a effectivement, on est tiraillé entre des injonctions contradictoires, entre ceux qui veulent préserver le modèle existant, qui sentent, il y a toujours aussi effectivement des problèmes, des conflits de répartition, de la valeur ajoutée, des modèles qui sont, ou des exploitations qui sont, problématiques en termes d'évolution économique. Mais en même temps, voilà, il y a un moment, il faut que la puissance publique suive des orientations claires, les annonce et le fasse de façon cohérente. Et on a l'impression que ça n'a pas été vraiment fait jusqu'à présent, ou pas suffisamment en tout cas.
À Montpellier, Benoît d'Aviron, ce constat, oui. Vous connaissez bien sûr cette note au CAE.
Écoutez, peut-être le premier point que je voudrais reprendre, c'est d'abord dire que je suis d'accord avec le constat qui est fait sur les errements, on pourrait dire, de la politique et sa difficulté aujourd'hui à savoir exactement ce qu'elle veut. Et on dépense beaucoup d'argent finalement sans trop savoir ce qu'on veut. Mais je voudrais revenir sur cette question que vous avez posée sur finalement l'objectif de compétitivité. D'abord pour rappeler que les prévisions qu'on a aujourd'hui sont quand même très mauvaises. Je pense à une note de Natixis là, qui est sortie en février, qui nous dit en gros que les moteurs de la croissance mondiale sont en panne. Ça veut dire que la compétition sur les marchés internationaux va être très dure dans les années qui viennent. Ce que je voudrais souligner, c'est s'interroger sur l'objectif de compétitivité. Justement, précisément, la compétitivité n'est pas un objectif, c'est un moyen. Il ne faudrait surtout pas l'oublier. Les parts de marché en soi, ça ne veut rien dire. C'est un moyen, et ne pas oublier les objectifs qu'on poursuit derrière cette
pourtant,
recherche de
parts
de
pourtant,
marché.
Et pourtant, pardon, je t'interromps, Benoît d'Aviron, on nous dit sans cesse, la France est en perte de compétitivité. C'est quand même le défaut que l'on souligne, en tout cas du côté de beaucoup de producteurs, de beaucoup d'associations de producteurs. C'est ce qui les ennuie le plus, c'est que nous sommes incapables, au fond, de faire face à la compétition.
Oui, mais c'est peut-être là le biais de l'analyse et le fait qu'aujourd'hui, on ne nous parle que de ça. On peut très bien imaginer une compétitivité qui va se concilier avec la destruction d'emplois, comme elle se passe aujourd'hui dans le secteur agricole, la destruction de l'environnement, avec des profits importants qui seront réinvestis en Suisse ou investis à l'étranger, et donc qui n'apporteront rien à la France. Donc les parts de marché en tant que telles ne nous disent rien sur ce que l'agriculture apporte à la France, de toute façon.
Oui, c'est là votre critique principale, Marie-Hélène Schwab, de votre côté.
Oui, alors sur cette question de la compétitivité, moi je voudrais apporter une note, je partage tout à fait le point de vue de Sébastien Jean et de Benoît d'Aviron, mais je voudrais apporter une note un peu positive en donnant un chiffre. En 2015, les exportations d'orge françaises vers la Chine ont augmenté de 322% en valeur. C'est absolument énorme. Donc disons que s'il y a une demande qui est là, et la demande alimentaire, elle sera là dans le futur de toute façon, même si la croissance mondiale est en diminution, est en perte de vitesse, il y aura une demande alimentaire dans le futur et la France est capable de se positionner sur certains produits si tant est que certaines institutions et certaines personnes sont capables de promouvoir le modèle agricole français, la qualité des produits agricoles français à l'international. C'est un travail qui se fait pas seulement depuis la France, c'est un travail qui se fait dans les pays importateurs aussi et c'est quelque chose que je pense qu'il ne faut pas oublier.
Avons-nous un problème de production mondiale en ce moment, parce qu'on parle beaucoup de la volatilité des prix, et je reviens encore au point de vue des grands exportateurs. Je parle de Momagri, par exemple, qui est un think tank qui s'occupe beaucoup de compétition mondiale, et qui reproche d'ailleurs à la note de Sébastien Jean, Fontanier Bureau, de ne pas insister suffisamment sur cette urgence-là. Avons-nous un problème de production mondiale, Benoît d'Aviron?
Moi, je dirais que non, finalement. C'est un argument qui est... Oui, d'une certaine façon, non. C'est un argument qui est beaucoup mis en avant pour... Et on nous parle d'une croissance à assurer dans les prochaines années de 70% de la production. C'est un espèce de leitmotiv qui revient en permanence. D'une certaine façon, les situations de crise alimentaire telles qu'on les connaît dans le monde sont souvent dans des endroits où, finalement, les gens ne sont très peu connectés aux marchés internationaux. Donc, exporter plus sur les marchés internationaux, faire croître plus les marchés internationaux, ne va pas garantir la situation alimentaire des gens qui sont en situation les plus défavorisées. Après, il y aura une interrogation à avoir derrière le problème de production mondiale, c'est la consommation mondiale et les modèles de consommation mondiale. Il faut rappeler quand même que un des principaux déterminants de la flambée des prix qu'on a eu à la fin des années 2000 ont été les agrocarburants. Maïs aux États-Unis, matières grasses en Europe. Et que ça a été un choc incroyable en termes de demande sur les marchés.
Et c'est ici qu'on va parler du Brésil.
Par exemple aussi. Ouais. Donc vous voyez bien ici que ce n'est pas un problème de faim dans le monde ou de croissance de la population. C'est un problème de choix politiques qui ont été faits, qui ont provoqué un choc absurde sur les marchés internationaux. Parce qu'on était encore resté dans l'idée que le problème de l'agriculture, c'était de lui trouver des nouveaux débouchés. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ces politiques d'agrocarburants.
Oui, Sébastien Jean, sur ce point très important, parce que c'est l'émergence des nouveaux producteurs.
Absolument. En ce moment, on se trouve dans une situation où on a effectivement des marchés mondiaux qui sont clairement orientés à la baisse des prix sur toutes les matières premières, y compris le pétrole d'ailleurs, et toutes les grandes matières premières agricoles. En Europe, ça rencontre un contexte dans lequel, et c'est un phénomène qui, disons, une évolution qui s'est amorcée il y a plus de 20 ans maintenant, on a eu une modification des politiques agricoles, une sortie des soutiens des marchés, des soutiens des prix, pour aller vers un soutien des producteurs directement et donc de façon déconnectée du marché. Et effectivement, ça pose, disons, un certain nombre de problèmes d'adaptation à cette nouvelle donne. Simplement, il faut bien comprendre que cette volatilité des marchés mondiaux, elle a toujours existé. On a facilement tendance à penser en Europe que c'est quelque chose de nouveau, simplement parce qu'on avait des politiques différentes avant qui nous isolaient des marchés mondiaux. Donc, et qui d'ailleurs étaient, il faut bien le rappeler aussi, qui étaient fortement critiquées parce que c'était une façon d'exporter les problèmes et de laisser les autres pays s'ajuster. Hein, le temps n'est pas si loin où on reprochait régulièrement à l'Europe de déstructurer, de désorganiser la production agricole dans des pays en développement par ces subventions aux exportations qui inondaient les marchés et qui tout d'un coup mettaient des paysans à la rue dans les pays en développement. Donc je ne crois pas que le retour à ce genre de politique soit vraiment la réponse.
Oui, Marie-Hélène Schwab.
Oui, non, sur ce point du commerce international, c'est vrai que la libéralisation du commerce international a d'énormes limites en ce qui concerne les produits agroalimentaires. Hein. C'est pas pour rien que le cycle de négociation à l'OMC s'est arrêté. C'est vraiment pour cette raison, pour la raison de l'échange des produits agroalimentaires. Hein. Le secteur agricole n'est pas qu'un secteur qui produit une commodité, il y a aussi énormément d'impacts sociaux et environnementaux avec des conséquences. On l'a vu pour le Brésil qui est en crise parce que son modèle se base énormément sur les exportations. Après, si on regarde très concrètement l'augmentation de la population dans certaines régions, le développement économique de ces régions et l'augmentation de la demande qui est liée à ce développement économique et les terres disponibles et qui sont en diminution dans ces pays, je prends l'exemple de la Chine que je connais très bien. La Chine, c'est 7% des terres arables mondiales pour nourrir près de 20% de la population. Donc, structurellement, il y a un besoin d'importer qui ne va pas aller en diminuant dans les prochaines années. Donc, il y a d'énormes problèmes pour les échanges, enfin avec le modèle d'échange de produits agroalimentaires, mais les échanges commerciaux agroalimentaires sont en fait une nécessité.
Oui, on va revenir sur la qualité hein, de ces productions, bien sûr, la qualité environnementale. Le Brésil, on en dit un mot quand même, devenu quatrième exportateur mondial. J'ai trouvé troisième et quatrième. Je ne prends pas toujours les mêmes chiffres, ça dépend un petit peu. Mais enfin, il est rangé à peu près au même rang que la France actuellement, c'est bien cela. Et ça s'est passé extrêmement vite, Sébastien Jean.
Oui,
ou Benoît Daviron, je ne sais pas qui veut répondre. Oui, je vous en prie, Sébastien Jean.
Le Brésil a toujours été une puissance, disons, agricole importante. Et ils ont effectivement développé des exportations extrêmement importantes, assez focalisé aussi sur quelques grandes cultures, en particulier le soja vers la Chine. Il y a vraiment une relation commerciale très forte qui s'est développée à ce niveau-là.
Oui, donc une chance quand même pour ce pays. Mais là, je reviens encore à mes agriculteurs. Je relais encore une fois Mobagrip. Ça m'a beaucoup intéressé la critique qu'ils font de votre note. Crédit à l'investissement, soutien justement à ces agrocarburants. C'est une politique extrêmement déterminée vers la performance, vers la compétitivité. C'est bien cela que vous critiquez en somme.
Oui,
Sébastien Jean.
Il est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques différentes de par le monde et que l'Europe peut être souvent désignée actuellement un peu comme le leader vertueux, le seul qui aurait joué vraiment complètement le jeu de ce découplage des aides aux productions. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire pareil que les autres?
Au point de s'en affaiblir, disent les critiques.
On n'en a pas encore parlé, mais je pense qu'on y reviendra. Il faut dire aussi que la concurrence sur les produits agricoles, elle est acharnée au sein même de l'Europe. Hein, et qu'une bonne partie des problèmes concurrentiels qu'on a, c'est par rapport à l'Allemagne, à l'Espagne, aux Pays-Bas. Donc, c'est un peu facile, disons, d'aller dire parce que l'augmentation des soutiens aux paysans a été énorme en Chine, parce que l'augmentation des assurances aux fermiers américains a aussi été très forte, on doit faire pareil. Moi, je crois que c'est une façon d'essayer de faire plus de la même chose qu'on a eu jusqu'à présent, hein, de ne pas changer les politiques sur le fond et de renoncer justement à cette possibilité d'orientation véritablement des pratiques agricoles qu'on doit pouvoir obtenir avec une politique aussi ambitieuse que celle qu'on a.
À Montpellier, Benoît Daviron.
Oui, moi je voulais revenir sur la question du Brésil malgré tout, et c'est vraiment le pays, on pourrait dire, exemplaire dans la discussion actuelle. L'avantage du Brésil, un des avantages qu'il a depuis très longtemps, c'est d'avoir énormément de terres, énormément de ressources finalement. Et de ce point de vue-là, la compétition France-Brésil, elle est forcément, d'une façon, perdue. Je voudrais pas avoir l'air trop pessimiste, mais la façon dont la France en est sortie jusqu'à présent, ça a été via la protection qu'on a modifiée récemment, et puis en remplaçant les ressources naturelles qu'a le Brésil par du pétrole, on pourrait dire. C'est-à-dire en mettant des engrais, des pesticides, ouais. des intrants de ce type-là. Alors, vouloir jouer avec le Brésil, d'une façon, c'est jouer perdant, ou alors gagnant, peut-être sur le plan des parts de marché, mais perdant sur les ressources naturelles, sur le travail, sur tous ces objectifs-là, finalement, qui devraient être les objectifs premiers d'une politique agricole.
Oui, et ce qu'on oublie souvent aussi, enfin ce qu'on oublie, et c'est assez évident, c'est que nous avons, nous, très peu d'agriculteurs, finalement, pour une production très importante, alors que, bien entendu, dans les pays émergents, c'est évidemment le cas de la Chine, mais c'est encore aussi le cas du Brésil, une population très active, agricole, encore très très importante dans la plupart des pays en développement, évidemment.
Tout à fait.
Et ça, c'est aussi un élément avec lequel il faut compter.
Oui, bien sûr. Et là, je voudrais en profiter pour souligner aussi qu'on a très peu d'agriculteurs, mais on pourrait produire autant avec 10 fois moins d'agriculteurs en France. Si on se cale sur les modèles américains, sur le modèle américain d'agriculture, on peut le faire avec 10 fois moins. Est-ce que c'est ça qu'on veut en France? Est-ce que c'est le modèle qu'on cherche à poursuivre, c'est-à-dire avoir vraiment 50 000 agriculteurs qui auront des usines à lait, des usines à blé énormes et qui en même temps ne créeront aucun emploi, alors que l'emploi devrait être une priorité majeure aujourd'hui de nos politiques économiques.
Oui, on l'a dit, nos exploitations réduisent en nombre mais augmentent en taille. Hein. Cela, c'est toujours pas arrêté, Sébastien Jean.
Oui, c'est une tendance lourde qui se continue, effectivement. Qui d'ailleurs est ambivalente hein, à plusieurs points de vue. D'un point de vue économique, on n'a pas des économies d'échelle très fortes dans l'agriculture sur tous les segments. Dans l'élevage, par exemple, à l'amont de l'élevage, c'est les économies d'échelle au-delà d'une certaine taille sont pas évidentes, alors qu'au contraire, dans l'abattage, transformation, la taille est un facteur clé. On a, je crois, quand même un peu trop tendance en France à en faire un élément décisif et à penser que small is beautiful, hein, que la petite exploitation est nécessairement la plus vertueuse. Et donc, il me semble qu'on aurait un grand bénéfice à, sortir de cet a priori et vraiment cibler les politiques publiques sur les résultats environnementaux, sur des exigences environnementales pour les exploitations.
Oui, c'est une de vos recommandations. C'est vrai, et c'est d'ailleurs, ça m'a frappé aussi. Hein. On ne pénalise pas a priori l'agrandissement des structures. Hein. Je le présente peut-être de cette manière un peu négative. S'il ne génère pas d'externalités négatives, en gros, s'il a des conditions environnementales qui sont satisfaisantes.
Oui, c'est un corollaire du constat qu'on fait sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a une inflexion vers ce qu'on appelle le verdissement de la politique agricole commune depuis des années déjà. Et au fond, on a introduit beaucoup de contraintes qui souvent sont très difficiles et coûteuses à respecter pour les agriculteurs, pour assez peu de résultats. Donc, pourquoi? Essentiellement parce que il y avait des ambitions, enfin disons des injonctions contradictoires justement, des ambitions importantes, donc des réglementations souvent assez détaillées et difficiles à mettre en œuvre et à vérifier, et en même temps, dans leur mise en œuvre, à un moment ou à un autre des discussions, des inflexions, des souplesses, qui font que, par exemple, on sait qu'il faut de la rotation des cultures, une diversité des cultures, et puis en même temps, au moment de la mise en œuvre, on va autoriser qu'une alternance, disons maïs, et puis un couvert végétal non récolté, et puis de nouveau culture de maïs ensuite, soit considéré comme une rotation des cultures. Donc finalement, on a imposé la contrainte, on a eu le coût administratif, et on a manqué le bénéfice environnemental.
Oui, ce qui nous met dans l'impasse actuelle d'un très grand nombre de nos exploitations. Retour vers d'autres pays que vous observez, Marie-Hélène Schwab, parce que si je repars toujours de cette note, on nous dit aussi dans la note du Conseil d'analyse économique que la France doit s'appuyer sur ses atouts, et dans les atouts, bien sûr, le contrôle sanitaire, la traçabilité, l'absence d'antibiotiques, c'est pas toujours le cas, mais on essaye d'aller vers là. La promotion, évidemment, le respect de l'environnement et le bien-être animal, c'est un point qui commence à prendre beaucoup d'importance. C'est là-dessus que l'on doit s'appuyer, ça n'est pas tout à fait ce qui se passe dans les pays émergents actuellement.
Non, mais c'est sûr, si on essaye de...
Puis Benoît Daviron ensuite, Marie-Hélène Schwab.
Si on essaye de se mettre en compétition avec des pays qui ont des gros avantages en matière de production, mais qui par contre ne respectent pas des normes de qualité, des normes environnementales, oui, effectivement, on va être face à une compétition avec des prix très bas, avec un nivellement par le bas de toutes ces normes sociales et environnementales. Et c'est pas du tout la force du modèle agricole français. Enfin, le problème de compétitivité de la France n'est pas du tout dans le modèle agricole français, il est dans dans la promotion de ce modèle à l'extérieur. Je pense que...
Qu'on ne sait pas faire, au fond.
Et qu'on manque cruellement de moyens pour le faire. Il y a des gens qui le font, il y a des institutions qui le font à l'étranger, mais elles ne sont pas suffisantes, elles ne sont pas assez bien organisées. Et je pense qu'il y a clairement quelque chose à faire là-dessus pour améliorer la compétitivité de la France. Oui.
On peut dire que les États-Unis, le Canada ne respectent pas toutes ces normes aussi bien que nous. Ce qui donne les inquiétudes que l'on sait à notre commissaire aux affaires européennes.
Le débat sur le traité transatlantique reflète clairement que les normes ne sont pas les mêmes en France et aux États-Unis.
Benoît Daviron, sur ce point.
Oui, il est clair que la France a un avantage dans la compétition mondiale sur ces questions sanitaires, par exemple. On a eu des investissements chinois récemment dans le secteur laitier en France, dans la transformation du lait, pour assurer un approvisionnement en lait du marché chinois. En produits sûrs, d'un point de vue sanitaire, sachant que le lait est un enjeu, une question quand même très chaude en Chine. Donc la France a clairement un avantage. Je reviendrai sur l'importance en même temps de suivre les conséquences sociales et environnementales qu'auront le développement de ce type d'exportation. Et de ne pas l'oublier, sous prétexte qu'on a gagné 3% de part de marché sur le marché du lait.
Ma question est un peu provocatrice en tout début. Faut-il encore exporter finalement, Benoît Daviron? Pas nécessairement.
Ben, c'est quand même la question. Ce que je ne sais pas, j'ai pas la réponse à ça. Ce que je voudrais, c'est insister sur la nécessité d'évaluer, finalement, les autres conséquences quand on gagne une part de marché. Qu'est-ce que ça a comme conséquence en termes d'emploi, en termes d'environnement? Un indicateur qui est très peu dans le débat français, par exemple, c'est le rendement énergétique de l'agriculture. Ça peut sembler technique comme affaire, mais combien d'énergie, sous forme de pétrole pour l'essentiel, on mène à l'agriculture pour produire une calorie? Il y a beaucoup de secteurs où finalement on a aujourd'hui, on est à 1,5, c'est-à-dire qu'on met une calorie de pétrole pour avoir une calorie agricole. Les biocarburants, c'est à peu près ça, 1,2 sur le colza. C'est-à-dire que c'est une aberration d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de la... Et c'est un indicateur très important sur l'avenir en termes de gestion des ressources, et bonne gestion des ressources, c'est que avoir une agriculture finalement qui consomme de l'énergie, au lieu d'en produire, est une aberration dans la longue durée du point de vue de la gestion des ressources de la France.
Sébastien Jean.
Oui, je reviens sur votre question. Est-ce qu'il faut, disons, exporter dans l'activité agricole? Pour moi, c'est pas un but en soi, c'est un moyen. C'est un moyen, donc il faut s'interroger sur les buts qu'on recherche fondamentalement, donc qui sont de nature justement potentiellement sociale, environnementale principalement. Ensuite, l'exportation, ça peut être un moyen de développer l'activité là où justement elle présente les plus grandes qualités, parce que on est plus efficace justement selon ces différents critères. D'environnement, de rendement social ou économique. Mais ce n'est pas un but en soi. Ensuite, est-ce qu'il est dangereux de se confronter, de se frotter au modèle américain? Le modèle américain, il n'est pas inférieur ou supérieur au modèle français en termes de normes agricoles. Simplement, il y a des pratiques différentes. C'est spécialement sensible et spécialement évident dans l'élevage parce que, d'une part, il y a une sensibilité au bien-être animal qui est très forte en Europe, qui n'existe pas aux États-Unis. D'autre part, il y a des pratiques qui effectivement sont qui sont moins restrictives par rapport aux OGM, aux usages antibiotiques.
Les hormones de croissance, donc, toutes ces...
Voilà, et d'une façon générale, il y a une approche où en Europe, on est très, craintif par rapport à tout ce qui est chimie dans l'agriculture. Aux États-Unis, il y a plutôt de grandes inquiétudes autour des bactéries. Donc souvent, en termes de sécurité bactérienne, les Américains ont des réglementations assez drastiques. Bon, je crois que, clairement, ce qu'a dit la Commission européenne qui négocie ce traité, c'est qu'on ne va pas, on ne peut pas complètement réconcilier ces approches. Donc, on doit respecter ces différences de choix, de préférences collectives. Et il me semble que ça a été bien affirmé et qu'il était nécessaire que ça le soit. Donc ensuite, est-ce que ça pose des problèmes? On sait que, pour l'instant, il faut le rappeler, on exporte beaucoup plus de biens agricoles et agroalimentaires vers les États-Unis qu'ils n'en apportent vers nous. On est largement excédentaire par rapport aux États-Unis. Ensuite, est-ce que ça pose des problèmes? Bon, on est plus protégé, donc probablement ils auraient peut-être plus d'intérêt exportateur, d'intérêt offensif s'il y avait un accord. Il y a clairement un point sensible qui est celui de l'élevage. Voilà. Et en particulier les races à viande de bovins en France.
Un marché, si l'on aboutit à ce grand accord commercial, ce sera le plus grand au monde d'ailleurs, puisqu'il va toucher 850 millions de consommateurs. On comprend que ça en fasse rêver beaucoup. Mais attention aux conditions que vous venez de rappeler, et aussi nombreuses critiques sur le manque de transparence de toutes ces négociations dont finalement nous ne savons pas grand-chose. C'est la Commission européenne qui négocie au nom des 28 pays membres, l'Union. Et on attendra un peu la suite sur cette affaire-là. Mais c'est quand même très significatif de cette question de la France agricole dans le monde aujourd'hui, en termes de compétition. Marine Echevoix, êtes-vous optimiste quand même? On va essayer de conclure là-dessus avec vous trois.
Par rapport à ce traité ou
non, par rapport à notre France agricole dans la compétition mondiale, avec toutes les réserves que vous venez de faire les uns les autres.
Disons qu'on a vraiment un modèle agricole en France qui a énormément de valeur, du point de vue environnemental, du point de vue social. On a quand même les coopératives agricoles qui sont un modèle que des pays
émergents. Envié, un modèle envié, vous l'avez dit, vous le soulignez dans vos travaux. Tout à fait.
C'est vraiment un système de fonctionnement. On a des coopératives agricoles qui appartiennent à leurs agriculteurs et qui sont devenues des multinationales extrêmement compétitives et qui apportent de l'innovation dans le monde agricole. Donc on a vraiment des valeurs qui sont extrêmement fortes et qui vont gagner en force à l'avenir, puisque le monde agricole aujourd'hui et dans les prochaines décennies, c'est comment réduire l'impact de l'agriculture, comment maintenir des emplois. Et donc la France a quelque chose à jouer là-dessus. Après, quels moyens on met pour défendre ce modèle à l'international, ça c'est vraiment la clé, je pense.
Benoît Daviron, un dernier mot, on conclut rapidement.
Écoutez, je ne serai pas forcément pessimiste sur l'avenir de l'agriculture, je suis pessimiste à court terme sur le débat agricole français, d'une certaine façon.
Ouais.
Dans le sens où on a un débat qui est très verrouillé. D'un côté, on a une agriculture qui est historiquement, depuis les années 60, on pourrait dire une agriculture de la chimie. Quand je dis agriculture de la chimie, ça veut dire que les groupes chimiques ont beaucoup d'importance dans le débat agricole. Des groupes comme BASF, comme Syngenta, etc., qui pèsent très lourd et orientent beaucoup le débat en France comme à l'international. L'autre problème qu'on a dans le débat, c'est qu'on a une espèce de nomenclatura, on pourrait dire ça, c'est un peu comme on avait dans les pays de l'Est à une époque, c'est-à-dire des gens qui sont montés par la voie syndicale et qui aujourd'hui ont des positions économiques et politiques très fortes. Je pense à un groupe comme Avril, qui est présidé par Monsieur Belin, qui est aussi le président de la FNSEA, c'est-à-dire une situation très aberrante dans le sens où c'est comme si on avait Édouard Leclerc qui est en même temps secrétaire général de la CGT. C'est en gros la situation agricole. Et ça pèse très lourd pour effectivement... Oui, non mais...
Allez-y.
Donc ça pèse très lourd finalement sur la possibilité de faire évoluer le débat tranquillement et de manière sereine et en n'oubliant pas finalement quels sont les objectifs qu'on cherche à poursuivre, je le redis une fois de plus, dans le débat agricole. Voilà, donc pessimiste sur le débat agricole, mais bon, on peut espérer qu'un jour le mur de Berlin tombera aussi dans le secteur agricole, comme il est tombé pour les pays de l'Est.
Eh bien merci quand même pour cette note plus positive. Merci à tous les trois, Sébastien Jean, Marie-Hélène Schwab et Benoît Daviron qui est à Montpellier. Venez avec un chiffre, je vous avais proposé de le faire. C'est une petite séquence que j'aime bien introduire. Je crois que Sébastien Jean a prévu quelque chose.
Oui, le chiffre
et
que je voulais commenter...
Et on sort de notre sujet d'aujourd'hui.
C'est un petit chiffre, c'est 1,40. C'est le taux de change de la livre sterling contre le dollar. Sachant que la livre sterling a atteint son plus bas depuis 7 ans, ce lundi, à la suite de l'annonce par le maire de Londres, Boris Johnson, du fait qu'il allait soutenir la sortie, disons, au référendum britannique sur le Brexit. Et donc, je crois que ça illustre bien, disons, le degré d'incertitude, de confusion qu'il y a autour de ce débat sur le Brexit et les menaces que cette perspective porte potentiellement pour la construction européenne, ce qui sont évidemment très graves.
Voilà, un petit retour sur l'émission qui nous a précédé sur le Brexit. Vous aviez un chiffre, Marie-Hélène Schwab, très vite à nous commenter.
Oui, c'est un chiffre que j'ai donné au cours de l'émission. C'est plus 322% en valeur pour les exportations d'orge française vers la Chine, pour finir sur une note positive.
Qui vous paraît quand même très, très important. La France n'est pas tout à fait battue encore dans ce domaine. Et Benoît Daviron? Pas sûr.
Rapidement, donc.
Allons-y.
Je ne suis pas sorti du sujet, mais plus 17% pour les surfaces en rupture biologique en 2015 en France, ce qui est quand même une bonne nouvelle.
Et qui est une belle progression. On progresse vite là-dessus.
Oui, on progresse vite. Et deux chiffres joints à ça. 5% encore des surfaces en France seulement, en bio, mais 10% de l'emploi. 10% de l'emploi agricole en France.
Donc, ça veut dire qu'on arrive à créer de l'emploi dans ce domaine, peut-être davantage que dans les domaines plus traditionnels qu'on a évoqués.
Exactement, ce qui est plutôt finalement un message d'espoir.
D'important, on est bien d'accord. Merci encore à tous les trois et merci aussi à notre équipe ce matin. Avec nous, Ghislaine David était en compagnie d'Anthony Thomasson. Un grand merci aussi à Anaïs Morales qui a pris le relais pour notre émission cette semaine en préparation, documentation, la note au Conseil d'analyse économique que j'ai évoquée, que nous avons évoquée assez longuement, Sébastien Jean, Lionel Fontanier, Jean-Christophe Bureau. On en trouvera bien sûr les références et aussi les travaux de Marie-Hélène Schwab, de Benoît Daviron, au CIRAD et cette enquête que vous conduisez, Marie-Hélène Schwab, sur les transitions alimentaires agricoles. Encore merci, on se retrouve samedi prochain.